Chapitre 50. Marina Abramovitch. La séparation est une chance à saisir. Lors des cours de français, il y avait des séances consacrées à l'acquisition du vocabulaire. Et parmi les exercices, l'élève devait choisir un mot rare et en donner la définition la plus complète possible sous la forme d'un petit exposé oral. Mona écoutait ses camarades parler d'une naïade, d'une flagornerie ou encore d'un hurluberlu. Puis vint son tour. Son professeur prit sa voix méprisante et lui demanda « Allez, c'est à vous, Mona, debout. Et dites-nous donc sur quoi vous avez péroré. » Mona serra les poings et raidit la nuque. « Euthanasie, » répondit-elle. Et elle dicta le mot à la classe somnolente. Son professeur leva un sourcil. Mona prit son souffle. L'euthanasie, c'est quand quelqu'un décide qu'il veut mourir parce qu'il est très malade et sait que c'est impossible d'aller mieux. Par exemple, quand on est très vieux, qu'on a beaucoup de douleurs et que la vie refuse de vous offrir des moments heureux alors qu'elle en offrait avant. C'est un acte incroyable et très courageux. Et c'est un peu différent du suicide. Quand il y a l'euthanasie de quelqu'un, c'est qu'il en a parlé avec ses proches, sa famille, avec des médecins. Et c'est un vrai choix parce qu'on aime la vie et que quand on l'aime, on veut qu'elle soit belle jusqu'au bout et on veut être digne au moment de mourir. Mona se tut une seconde en remarquant que tous ses camarades la regardaient, électrisés. L'euthanasie, c'est autorisé dans quelques pays, comme par exemple la Belgique, mais c'est interdit dans beaucoup d'autres, et surtout en France. Il y a plusieurs raisons à ça. Beaucoup de médecins disent que ça irait dans le sens contraire de leur métier, puisqu'ils doivent soigner. Et puis les religions sont plutôt contre, parce qu'elles pensent que c'est Dieu qui doit décider de l'instant où on meurt. Alors il y a eu des gens, y compris des gens qui croyaient en Dieu, qui ont quand même dit très fort que l'euthanasie, c'était quelque chose d'humain, et qu'on devait y avoir droit. Parce qu'on a le droit d'être libre quand on meurt. Et ces gens-là ont dit qu'ils sont des militants et que leur cause, c'est de pouvoir mourir dans la dignité. Mona avait terminé. Elle se rassit. Un élève au premier rang demanda ce que signifiait dignité. Mona répondit « C'est quand les choses, elles sont grandes et qu'elles méritent le respect. » Un second élève, par une espèce de réflexe de son âge et propre au narcissisme de sa génération, grommela « Moi, je mérite le respect. » La classe fut submergée par un brouhaha virevoltant. Si les voix étaient encore celles d'enfants, leurs intonations mimaient les accents abrupts et abrutis de l'adolescence. Puis le calme revient. « Bon, eh bien, Mona, c'est un travail plus que convenable, auquel manque cependant l'origine du mot. Mais comme vous ne connaissez pas les langues anciennes, c'est beaucoup vous demander, je le reconnais.
Cela vient du grec ancien, monsieur.
Oui, bon, très bien. J'imagine que vos parents vous ont quand même bien aidé pour cet exercice.
Non, c'est ma grand-mère qui m'a aidé.
Henri le savait. Il ne lui restait que 3 mercredis à passer au musée en compagnie de sa petite fille. Bientôt, cela ferait 1 an et 52 visites. Henri méditait cette échéance et un instant s'interrogea. Sa vie aurait-elle encore du sens, passé cette date? Cette sensation de déréliction étrangla son cœur dont il commençait à sentir la fragilité. Alors il bascula 6 décennies en arrière. Il se rappelait Colette. Il se rappelait la manière dont tous les deux au bord de la mer avaient ramassé des séries de goumiers, puis les avaient érigés en porte-bonheur. Comment ils s'étaient juré l'amour absolu, la communion éternelle. Quand il lui avait demandé si elle voulait être heureuse dans la vie, elle avait souri et répondu « Non, je veux être follement heureuse ». Colette, qui à peine devenue adulte, avait déjà commencé à militer pour le droit à mourir dans la dignité, fit aussi jurer ce jour-là à Henri que s'il le fallait, quand il serait très vieux, il ne s'empêcherait ni l'un ni l'autre de se donner la mort dans le respect de soi-même. Henri et Colette, tandis qu'ils étaient jeunes, vaillants, intrépides et tellement beaux, avaient ainsi fait ce serment dans un mélange d'effusion sensuelle et de fierté tragique. Et ils avaient tenu parole. Ce n'était donc pas tant Mona que lui-même qui, en ce mélancolique mercredi, avait fondamentalement besoin de la consolation que l'art est capable d'offrir. À Beaubourg, l'enfant à la main et la poitrine comprimée, Henri gagna la salle où se trouvait l'installation minérale de Marina Abramovitch. Dans une salle rectangulaire, il y avait trois éléments en cuivre parallélépipédique suspendus de manière régulière sur chacun des murs blancs. Deux, à gauche et au centre, se trouvaient à la verticale, et le dernier à l'horizontale. Tous étaient épais d'une vingtaine de centimètres. Ils en mesuraient 250 de longueur, 52 de largeur. D'une massivité froide, austère, ils se révélaient très épurés, parcourus par des effets et des reflets de vert et de grisé. Grâce à une sorte de mode d'emploi, partie intégrante de l'œuvre, on comprenait que le premier objet à droite, appelé « dragon blanc debout », invitait à se hisser dessus et à regarder vers le sol. Il comportait une base pour dresser ses jambes ainsi qu'un repose-tête rigide en quartz orientant le regard. L'objet du centre, appelé « dragon rouge assis », invitait cette fois à se caler sur un siège et à regarder devant soi. « Dragon vert couché », enfin, avec son oreiller et sa cale pour les pieds, invitait à la position allongée et à regarder en haut. Mona, qui avait saisi le principe, se prêta au jeu en passant d'un objet à l'autre. Cela lui prit environ 6 minutes. Mais s'éloignant des consignes, elle fut soudain convaincue que l'œuvre n'était pas tant destinée à la vue qu'au toucher et au ressenti corporel. Alors pour l'appréhender, elle fit quelque chose de tout à fait stupéfiant. Elle reconduisit l'expérience en fermant les yeux cette fois. Elle commença d'abord par se positionner 18 minutes sur le premier objet, celui à gauche de l'installation. Elle s'y hissa et chercha à éprouver l'afflux d'énergie de la matière à laquelle elle était adossée debout. Puis, les paupières closes, elle prit 90 secondes à tâtons pour se rendre au deuxième élément, celui du centre, y grimper et s'y asseoir. Là encore, elle y demeura immobile durant 18 minutes. Et elle consacra exactement le même laps de temps pour gagner le troisième bloc disposé à l'horizontale, s'y allonger et, une fois couché, en éprouver la charge vitale. Au terme de ce long et lent rituel, elle retrouva ses repères et redressa la nuque. Elle croisa alors le visage balafré de son grand-père, juste à côté, silencieux, souriant, un peu vieilli. On aurait cru qu'il allait lui raconter une histoire pour qu'elle s'endorme en paix. Mais ce fut elle qui prit la parole. « C'est incroyable, Dadé, tout ce qu'on peut ressentir. Tu sais, quand on a vu des sculptures, comme celle de Michel-Ange ou de Camille Claudel, j'avais envie de les toucher. La seule fois où j'ai vraiment osé, c'est quand j'ai posé le doigt sur le tableau de Gainsborough, et puis aussi quand je me suis faufilé dans l'installation de Louise Bourgeois. Mais je savais que j'étais un peu hors la loi. » Henri s'amusa de l'expression. Là, c'était fantastique cette sensation de pouvoir être vraiment au contact de l'œuvre, sans gardien pour te gronder.
Et dis-moi pourquoi, Mona?
Parce que j'ai compris que l'artiste parle à tout ton corps. Ici, la vue est vraiment moins importante que le toucher. Et tu sais, ça me plaît de savoir qu'il y a des artistes qui s'occupent un peu du corps tout entier.
Qui s'adresse à d'autres sens que la vue.
Cela me rappelle cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Mais continue.
Je veux dire que quand on va dans un musée, on se dit qu'il va falloir tout regarder, et souvent très longtemps. Attention, hein, j'adore ça, Dadé. Mais c'est vrai que là, j'ai eu l'impression que l'œuvre m'appelait à faire quelque chose avec mon corps. Oh, des choses simples, bien sûr. Il suffisait de se mettre debout, de s'asseoir, de s'allonger.
Tu parles bien mieux de l'œuvre que je ne pourrais le faire, Mona.
Alors je t'en prie, poursuis. Je te disais que ce sont des choses simples, des choses de la vie de tous les jours, quoi. Mais là, comment dire? Là, on sent que c'est une chose simple. Et ça fait remonter énormément d'émotions. parce qu'on a des perceptions dans les bras, dans les jambes, sur la tête.
C'est pour cela que tu as fermé les yeux.
Oui, oui, c'est pour ça.
Mona haussa les épaules avec cet air qu'elle avait parfois de demander pardon d'être elle-même. Elle craignait d'avoir peiné Henri quand elle avait expérimenté l'installation de Marina Abramovitch les paupières closes.
Mais il saisissait trop bien qu'en agissant ainsi, Mona cherchait à domestiquer le malheur tapis dans l'ombre. Et c'était le plus insensé dans l'histoire. Elle y était parvenue.
L'œuvre de Marina Abramovitch lui avait prouvé qu'il demeurait des abîmes d'univers en mouvement au cœur des ténèbres et que l'existence ne s'arrêtait pas à la lumière du jour. Pour le dire autrement, elle avait apprécié ce moment d'obscurité, s'y était baignée plus qu'elle ne s'y était noyée, et elle redoutait un peu moins d'être rattrapée par le noir, un tout petit peu moins.
Il faut que tu saches que Marina Abramovitch est encore en vie et qu'elle fait partie des plus grands artistes du XXe siècle. Née à Belgrade, en Yougoslavie, elle est devenue une vedette mondiale à compter des années 1990. On lui doit en partie l'épanouissement d'une nouvelle forme d'expression, la performance. Elle s'était certes d'abord développée tout au long du XXe siècle, mais elle aboutit véritablement grâce à Marina Abramovitch.
Mais oui, Dadé, je me rappelle. On en avait déjà parlé. C'était devant une salle de bain dans une vitrine.
L'enfant se souvenait là de la conversation qu'elle avait eue avec son grand-père face au bazar de l'hôtel de ville. Henri lui avait en effet expliqué à cette occasion ce qu'était la performance. Un type d'œuvre qui ne consiste pas en la production d'une pièce concrète, mais en la réalisation éphémère d'une action. Et il avait notamment pris l'exemple d'un couple d'artistes qui, en guise de création, s'était hurlé dessus jusqu'à l'épuisement. Et cette performance avait justement été réalisée en 1978 par Marina Abramovitch et son compagnon d'alors, le photographe allemand Ulay.
Mais alors, c'est un peu comme du théâtre, finalement ?
Oui, un peu. Mais le théâtre se passe sur une scène, alors qu'une performance peut avoir lieu n'importe où sans qu'on en connaisse l'issue.
Surtout, c'est un type d'œuvre qui invite les spectateurs à être beaucoup plus actifs.
Par exemple, en 1974, Marina Abramovitch s'était produite dans une salle, immobile et livrée au public. Et devant elle, il y avait une table avec 72 objets de toutes sortes. Des fleurs, des photographies, des couteaux et même un revolver chargé. Les gens devaient pouvoir faire d'elle ce qu'ils voulaient. Elle était passive comme un pantin. Jusqu'au moment où quelqu'un a pris le revolver et lui a positionné un doigt sur la détente. L'arme tournée vers elle-même.
C'était atroce.
Et dangereux. Le galeriste estima que la performance allait trop loin et il y mit un terme. C'est l'un des grands enjeux de ce type d'œuvre. Il s'agit à chaque fois de sortir les corps, celui de l'artiste et ceux du public, de leurs frontières de confort pour qu'ils vivent des expériences extrêmes. Des expériences qui sont parfois ennuyeuses, parfois risquées, parfois apaisantes, parfois régénérante, et parfois un mélange de tout cela. Comme tu l'as compris, Marina Abramovitch cherche à ébranler le corps tout entier. Le sien, bien sûr, mais par empathie avec ce qu'elle fait et montre, ou en poussant le public à être actif dans un dispositif donné, elle cherche aussi à mettre à l'épreuve le corps et le cerveau des spectateurs, et à leur faire prendre conscience de façon très physique de toutes les énergies intenses et contradictoires qui les traversent. La peur, l'amour, la haine, la cruauté, le manque, l'envie, la joie.
Et là, que voulait-elle que l'on ressente ?
Elle a créé cette installation après un voyage en Chine, une extraordinaire aventure. D'ailleurs, le nom de chacun des trois objets, qui se réfère à un dragon, est inspiré de légendes chinoises.
Pourquoi est-ce que ce voyage a été une aventure ?
Avec son compagnon Ulay, ils sont partis chacun d'une extrémité de la Grande Muraille, elle-même considérée par les Chinois comme un immense dragon. Ulay depuis l'ouest, Marina depuis l'est, ils ont marché, marché et encore marché jusqu'à se croiser enfin au bout de 2000 kilomètres d'effort. Là, à cette jonction, à ce point de rencontre, ils se sont enlacés. Puis ils ont décidé de rompre leur couple. Leur vie à deux était terminée. Leur retrouvaille
était donc une séparation. Oh, oh, Dadé, c'est tellement triste.
L'installation que tu as expérimentée doit donc te permettre d'éprouver au contact de l'énergie des matériaux, du cuivre, du quartz, tout ce que l'artiste a elle-même éprouvé, c'est-à-dire des doutes et des souffrances immenses, mais aussi une sensation de reviviscence. En nous délestant de ce qui nous pèse, nous revivons, dit Marina Abramovitch, et ce qui nous pèse, c'est parfois ce que l'on aime.
Dadé, tu es donc en train de me dire qu'une séparation,
c'est aussi une nouvelle vie, une nouvelle chance à saisir, Mona. Pense au double sens du mot départ. Le départ est à la fois une fin et un commencement. Telle est la leçon d'aujourd'hui.
Mais nous sommes inséparables, dit. Jure-le sur ce qu'il y a de plus beau sur terre.
Il embrassa son front, tout sourire. Régénéré, un peu. Mélancolique, encore.